20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 1er décembre 1986. Le musée d'Orsay est inauguré par François Mitterrand, de la gare au musée, histoire d'une incroyable métamorphose. De la Concorde, longez la Seine, rive droite, en direction du musée du Louvre. Sur votre gauche, les arbres du jardin des Tuileries. Allez, empruntez la passerelle Léoport-Sénart-Senghor, là où les amoureux accrochent des cadenas comme ils l'ont fait de leur cœur. Traversez la Seine et vous voici devant l'un des plus prestigieux musées de la planète. Le mot, comme l'appellent ceux qui l'affectionnent, le musée d'Orsay. Ici, vous pouvez admirer la plus riche collection impressionniste du monde. Le déjeuner sur l'herbe de Manet, il est là. Vous serez troublé par les raboteurs de parquet, de caillebottes, et vous plongerez dans la nuit étoilée de Van Gogh. Attendez, ne rentrons pas tout de suite. Regardez-moi cet édifice. 138 mètres de long, 42 large, 29 de haut. Et ces horloges monumentales, n'est-ce pas? Et ces noms de villes sculptées, Vannes, Lorient, Quimper, Aurillac, Orléans. Car savez-vous que vous vous apprêtez à entrer dans une ancienne gare et en découvrant ses trésors, d'en arpenter les anciens quais? Œuvre de l'architecte Victoire Laloux, construite pour l'exposition universelle de 1900, la gare est magnifique. Fleuron de modernité à l'époque avec les premiers trains électriques, ses tapis remonte-bagages, ses ascenseurs. Victoire Laloux y adjoint même un hôtel qui compte près de 320 chambres. Et pourtant, la gare d'Orsay sera vite rattrapée par les temps et les progrès techniques. Trop court, ces quais ne seront pas en mesure d'accueillir les trains grandes lignes. Et voici la belle d'Orsay cantonnée aux lignes de banlieue parisienne, avant de cesser toute activité. En 1961, elle sera même à vendre, mais personne n'en voudra. Menacée de démolition, elle sera sauvée par trois hommes, trois présidents de la République, pas toujours du même bord, mais qui sauront cohabiter et se relayer au nom de la culture. Georges Pompidou la classera monument historique pour lui éviter d'être rasé. Valéry Giscard d'Estaing lancera l'idée de la transformer en musée et consultera des architectes. Et François Mitterrand lancera la réalisation du projet. C'est lui qui l'inaugurera en grande pompe, après 8 ans de travaux, en compagnie de Jacques Chirac, François Léotard, lors d'une visite commentée par une certaine Anne Pinjot. Nous sommes le 1er décembre 1986. Bonsoir à tous, bienvenue au musée d'Orsay, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir jusqu'à 21h, nous vous proposons une émission absolument exceptionnelle. Nous sommes au musée d'Orsay, car notre jour J est le 1er décembre 1986, inauguration de cet endroit incroyable, mais certains d'entre vous l'ignorent peut-être, il fut un temps où c'était une gare. François Blanchetière, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, mon invitation, c'est plutôt vous qui m'invitez dans ce lieu qui est le vôtre, un lieu absolument incroyable. Alors je le disais, en fait, en 1986, c'est l'inauguration. On va imaginer là que nous y sommes. Je rentre dans cet endroit incroyable comme le faisaient les premiers visiteurs qui suivaient François Mitterrand. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là.
Alors dans le détail, je ne peux pas vous dire comment ils sont arrivés, mais ce qui est certain, c'est que le président effectivement a été accompagné d'une foule d'officiels, ouais, parmi lesquels le président Valéry Giscard d'Estaing, son prédécesseur, qui a eu un rôle très important dans la naissance du musée. Son premier ministre Jacques Chirac était là aussi, et puis évidemment les représentants de l'établissement public du musée d'Orsay, du ministère de la Culture, tous les officiels qu'on imagine pour une grande inauguration comme celle-là.
Une inauguration donc en grande pompe. On rentrait par ici?
Tout à fait, par l'esplanade, là où les visiteurs aujourd'hui font la queue, ouais, et entrent dans le musée après tous les contrôles de rigueur qui se sont beaucoup alourdis depuis l'origine.
Évidemment. Alors donc, on rentrait par ici, on va le faire, on va le raconter aussi à nos auditeurs. On est en train de descendre des escaliers et là, se découvre à nous un spectacle absolument magistral. Je dois confesser que c'est l'un des endroits que je préfère dans Paris et que je viens bien souvent m'y réfugier. Nous sommes sous une sorte de dôme de verre absolument magnifique et devant nous, des sculptures extrêmement émouvantes. C'est d'ailleurs votre spécialité, vous, François?
Oui, tout à fait. Je suis spécialiste de sculpture, mais je m'occupe aussi d'architecture au musée. Évidemment, le fait que le musée soit abrité par un bâtiment pareil fait que l'architecture a une place étape vraiment importante dans l'histoire de ce lieu.
Et la lumière est très singulière, hein,
oui.
Je dirais.
Cette voûte magistrale percée de verrières est orientée en fait ouest-est, ce qui fait que là, on a la lumière qui nous convient.
Voilà, et qui met en valeur évidemment toutes ces sculptures dont on va parler un petit peu plus tard. Alors, il y a trois hommes qui ont veillé sur ce musée d'Orsay de façon successive. Un premier président, Pompidou, un deuxième, Valéry Giscard d'Estaing, un troisième, donc François Mitterrand, qui était là le 1er décembre 1986. Racontez-nous un petit peu justement comment est née l'idée de ce musée.
Ce musée aurait pu ne pas voir le jour, tout simplement parce que la gare d'Orsay a une histoire compliquée et qu'elle a bien failli disparaître. Au début des années 1970, cette gare est perçue comme outrancière dans son décor, comme laide. Certains parlent de la gare la plus laide de Paris, ce qui aujourd'hui nous paraît fou, inconcevable. Mais voilà, le goût change, le goût évolue. On est à un moment justement où ce goût commence à changer. Il y a eu un traumatisme avec la destruction des Halles de Baltard en plein centre de Paris. On voulait faire de la place, on voulait moderniser la ville. Mais on a bien senti, en les détruisant, que peut-être on faisait une erreur et que cette architecture de fer avait aussi beaucoup de valeur. C'est largement ce qui a entraîné la sauvegarde de la gare d'Orsay, dont la destruction était pourtant actée. Et c'est sous le président Georges Pompidou, effectivement, que cette décision de ne pas détruire, de rénover, de transformer, d'utiliser autrement le bâtiment a été prise. En 1973, on décide qu'il y aura là un musée qui n'est pas encore clairement défini.
Et surtout que, effectivement, la gare d'Orsay devient monument historique.
Oui.
Ce qui est une façon, finalement, de protéger l'édifice d'une démolition qui était prévue.
Tout à fait. C'est une manière de reconnaître d'abord son importance historique, artistique, patrimoniale. Mmh. Le terme de patrimoine commence à être employé, deviendra vraiment un mot très courant, très populaire dans les années 1980. C'est un changement de considération très important à cette période-là. Donc on reconnaît sa valeur d'abord en l'inscrivant. C'est le premier stade de protection des monuments historiques. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1973. Et puis, 5 ans plus tard, elle est classée, ce qui est le niveau le plus élevé de protection, classée monument historique en 1978.
Donc, on ne touche pas à la gare d'Orsay. On va en faire un musée. Ce projet, donc, naît sous Pompidou, mais d'une façon assez confuse, je dirais. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui va donner un coup de pouce à cette idée.
Tout à fait, et en bonne partie grâce à son goût pour le 19e siècle, qu'on décide de faire là un musée du 19e siècle qui va permettre aussi de libérer des espaces au Louvre, de regrouper les collections qui sont au Jeu de Paume, le musée des impressionnistes, et puis une partie des collections du Musée national d'art moderne. On va regrouper tout cela dans ce lieu magnifique, la gare d'Orsay, qui devient le musée du 19e siècle, qu'on va appeler Musée d'Orsay.
Alors, ensuite, François Mitterrand, lui, alors, rendra véritablement les choses concrètes. On y reviendra un petit peu plus tard. Vraiment, c'est un honneur, parce qu'il faut préciser à nos auditeurs que le musée est vide. Donc, le musée est à nous. Et j'ai le sentiment que ces sculptures au milieu desquelles nous sommes en train de déambuler sont, je dirais, dans un jour off. C'est le jour où elles se reposent.
C'est un petit peu ça.
Elles ne sont soumises qu'à notre regard.
C'est ça. Elles n'ont pas le bruit de la foule.
Exactement.
Mais en même temps, elles perdent un peu de leur séduction. Elles sont faites pour être regardées, après tout.
C'est vrai.
C'est leur vocation, c'est leur plaisir, peut-être. Je ne sais pas, il faut leur demander.
Bah écoutez, en tout cas, là, celles qui nous entourent ont l'air de prendre un certain plaisir, effectivement, à se présenter à notre regard. Quelles sont ces sculptures ?
Ce qu'on appelle cette grande allée, sous la nef, sous la voûte d'Orsay, c'est vraiment la présentation en majesté de la sculpture du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, et en particulier dans la nef ici, du début de notre période. Si vous voulez, c'est essentiellement le Second Empire, le début de la Troisième République. On est entre 1848 et le début des années 1880. Le reste se déploie dans d'autres parties du musée, notamment sur les terrasses de part et d'autre.
Et là, devant nous, un tableau historique, mythique. Il était là, hein, le jour de l'inauguration.
Il n'a pas bougé, effectivement. Il est de très, très grande dimension. Ce tableau s'appelle « Les Romains de la décadence ». Il est l'œuvre de Thomas Couture, c'est son chef-d'œuvre. Au salon de 1847, il reçoit, je crois que c'est une médaille d'or, en tout cas c'est un très grand succès du salon de 1847, avec, par parenthèse, une autre œuvre assez connue, « La femme piquée par un serpent ». Vous parlez tout à l'heure de plaisir. C'est une œuvre emblématique de ce regard sur le corps féminin qu'on a au XIXe siècle, très sensuel, avec quelque chose d'un petit peu ambigu. Ce terme d'ambigu, d'équivoque, on l'a beaucoup employé pour ce type de peinture, pour ce type de sculpture. Ces œuvres ont été largement dépréciées. Elles ont eu énormément de succès de leur temps. Et puis ensuite, à partir du début du XXe siècle et l'arrivée des avant-gardes, on les a regardées avec de plus en plus de suspicion, de mépris. On les a souvent reléguées en réserve. Et c'est vraiment un des aspects très forts du musée d'Orsay que d'avoir ressorti ces œuvres, de les avoir montrées, en plus des collections qui étaient jusque-là les plus valorisées, notamment celles des impressionnistes.
En tout cas, effectivement, cette œuvre Thomas Couture, elle est mise en majesté au sein, sous la nef du musée d'Orsay. D'ailleurs, Thomas Couture, dont l'un des élèves était Manet.
Et oui.
Et le déjeuner sur l'herbe est ici aussi.
Absolument.
Ce fameux déjeuner sur l'herbe. On est un petit peu dans le temple d'une certaine sensualité quand même aussi, non ?
Entre autres choses, c'est l'une des sensations, l'un des sentiments que les œuvres d'art véhiculent, effectivement. Il y a aussi des œuvres dramatiques, comme l'Ugolin de Carpeaux, qui est juste ici, une des œuvres les plus spectaculaires en termes de sculpture dramatique, toutes de pathos et de tension. Les œuvres d'art du musée d'Orsay, comme en général, véhiculent des émotions extrêmement diverses, avec des styles extrêmement divers aussi, que le musée a contribué à remettre en valeur, dont il a promu la diversité finalement.
Alors ce qu'il faut aussi préciser à ceux qui nous écoutent, c'est que sous cette nef absolument magistrale, il fut un temps où les trains arrivaient et partaient. Dans un instant, on va se retrouver pour la suite de Jour J et on va vous expliquer comment cette fameuse gare, reléguée un temps aussi au train de banlieue au cœur de Paris, est devenue l'un des musées les plus prestigieux du monde. A tout de suite dans Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Imaginez dans les années 20, dans les années 30, à Paris, une gare juste là, le long de la Seine. Il y a des trains qui partent, il y a des voyageurs qui courent, il y a des amoureux qui se retrouvent, des familles qui sont pressées de peur de rater le train. Nous sommes à la gare d'Orsay. Et oui, vous ne la connaissez pas, la gare d'Orsay, car il fut un temps où elle a été détruite et qu'elle a été transformée en musée. On est ce soir avec François Blanchetière, l'un des conservateurs du musée d'Orsay, qui nous fait l'honneur d'une visite exceptionnelle, un jour de fermeture. C'est dire si à Jour J, nous sommes des chanceux. François Blanchetière, je venais de raconter l'atmosphère d'une gare. Cette gare, elle était ici même où a été érigé un musée et inauguré en 1986 par François Mitterrand. Et il faut dire aussi que cette gare elle-même a été construite sur un lieu de désolation.
Oui, tout à fait. Avant la construction de la gare, à la toute fin du XIXe siècle, il y a eu ici pendant 25 ans des ruines incroyables en plein Paris, face aux Tuileries, tout près du Louvre. Les ruines d'un édifice lui-même très important qui abritait la Cour des comptes et le Conseil d'État. Un bâtiment qui avait été construit dans la première partie du XIXe siècle. Le projet naît sous Napoléon. Il est achevé en 1840. La Cour des comptes et le Conseil d'État occupent les lieux de 1840 à 1871. Et puis, sous la Commune, le lieu est occupé par les communards qui, au moment où ils sont éjectés de Paris, mettent le feu à ce bâtiment comme à d'autres, le palais des Tuileries, l'hôtel de ville. Et les ruines restent en plein cœur de Paris, donc entre 1871 et 1896, date à laquelle commence décider la construction d'une gare. Donc on rase ces ruines et on élève ce bâtiment magnifique de Victor Laloux qui est inauguré le 14 juillet 1900. Pendant l'exposition universelle si connue qui ouvre le XXe siècle.
Donc ce que l'on apprend peut-être ce soir à nos auditeurs, c'est qu'avant le musée d'Orsay, il y avait la gare d'Orsay. Et avant la gare d'Orsay, il y avait le palais d'Orsay incendié en 1871 par les communards. Donc on a une zone de désolation. Victor Laloux, dont vous parlez, est un architecte. Est-ce qu'à l'époque, il est tendance ?
Tendance, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas il est très reconnu,
oui.
Vraiment. C'est un grand professeur à l'école des Beaux-Arts, donc c'est un maître de l'architecture académique, la carte d'architecture la plus officielle, et ceci n'est pas péjoratif, simplement. Il érige des bâtiments qui servent le pouvoir en place, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on lui demande. Des bâtiments qui il a ce talent de savoir les faire à la fois fonctionnels, et très décoré, très orné,
très beau,
très prestigieux. C'est ce qui a fait le succès de la gare quand elle a été inaugurée en 1900. C'est ce qui aurait pu entraîner sa destruction parce que ce goût-là a complètement changé. Et le regard qu'on portait là-dessus dans la deuxième moitié du XXe siècle était beaucoup moins positif.
Alors, il faut préciser, on va descendre vers les quais parce que là, en fait, vous venez de m'emmener du côté de la Seine. Hein, puisque
voilà.
C'est de ce côté-ci que rentraient donc les voyageurs.
Exactement, la circulation est inversée.
Exactement. Parce que ce qu'il faut préciser aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que nous sommes en train là d'arpenter les quais.
En fait, on descend vers le niveau des quais, effectivement, qui était en contrebas par rapport à l'entrée sur le quai de la Seine, le quai Monterland aujourd'hui. Donc les visiteurs entraient par cette grande façade latérale où tout le monde connaît cette vue avec les deux horloges de part et d'autre. On entrait par ce côté. On allait se renseigner dans les pavillons, la salle d'attente, les salons de réception. On prenait son billet et on descendait effectivement vers les quais pour prendre le train.
Et c'était une gare moderne.
C'était une gare très moderne, effectivement. Entièrement électrique, à la fois pour la circulation des trains, pour l'éclairage de la gare et pour faire fonctionner énormément d'équipements très modernes à l'époque, notamment des tapis roulants qui entraînaient les bagages des voyageurs pour ne pas leur faire trop d'efforts vers la sortie.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une gare qui a été un temps moderne et qui, quelques années, quelques décennies plus tard, dirons-nous, est devenue obsolète.
Mais je pense que ça, la modernité, elle est par essence éphémère. Ouais. Tout ce qui est moderne aujourd'hui ne le sera plus dans 10 ans.
Oui, mais certaines gares ont survécu quand même.
Pas tant que ça. Alors, on les a beaucoup adaptées. Pensez à la gare Montparnasse, on l'a complètement remplacée par une gare qu'on a jugée moderne dans les années 70 et qui aujourd'hui paraît un peu vieillotte dans certains aspects.
Et puis la gare Saint-Lazare, par exemple, oui, qui, elle, a survécu, je dirais, à la modernité parce qu'elle a eu
adaptée.
Cette possibilité, voilà, de rallonger ses quais. Car ce qu'il faut préciser, en fait, à ceux qui nous écoutent, c'est que finalement, la mort de la gare d'Orsay, c'est qu'on n'a pas pu rallonger ses quais qui étaient trop courts pour pouvoir accueillir donc les trains grandes lignes. Et donc, elle est devenue une gare de banlieue.
En fait, elle était à la fois gare de grande ligne et gare de banlieue et avec effectivement les nécessités nouvelles en termes de rentabilité pour que les trains soient plus longs. On aurait aimé augmenter le nombre de quais, mais c'est pas possible. On est vraiment dans un quartier très dense. Donc on a restreint l'utilisation de la gare d'Orsay au trafic banlieue. Les trafics grande ligne ont été reportés vers la gare d'Austerlitz qui était à l'origine... Disons, la gare d'Orsay visait à prolonger les trains qui arrivaient jusqu'à Austerlitz. On a remis le trafic grande ligne à Austerlitz, effectivement.
Voilà, donc cette gare, elle desservait quoi, le ouest et le sud-ouest de la France?
Le sud-ouest essentiellement, et jusqu'à l'Espagne. C'est par la gare d'Orsay qu'on arrivait d'Espagne. Mmh. C'est ce que fait Picasso, par exemple, à l'automne 1900, peu de temps après l'inauguration. Il vient voir l'exposition universelle. Il arrive en octobre 1900 et il est un voyageur qui arrive à Paris par la gare d'Orsay.
C'est vrai aussi qu'il y avait un hôtel et il y avait un restaurant absolument incroyable ici.
Il y a toujours.
Allons déjeuner, avec plaisir, emmenez-moi.
Jour J, avec Flavie Flamand, jusqu'à 21h sur RTL.
Mais alors François, vous m'avez invité à déjeuner et je me retrouve dans l'entrée d'un hôtel.
Bah écoutez, il faut bien entrer par l'entrée, c'est normal. On y va par cet escalier, nous allons monter au premier étage de l'ancien hôtel.
Et attendez, mais c'est dingue. Mais les visiteurs du musée d'Orsay ne passent jamais par là.
Non, malheureusement, cette entrée latérale sur le quai Monterland, elle a été un temps l'entrée de la conservation, elle a été un temps l'entrée de la documentation. Les chercheurs qui venaient travailler à la doc passaient par ici et c'était un lieu magnifique pour les accueillir. Pour des raisons de sécurité, cette entrée est très peu utilisée actuellement. Et c'est dommage parce qu'elle est effectivement magnifique.
Alors, c'est absolument splendide. On va essayer de la décrire. Nous sommes véritablement dans le musée d'Orsay, une partie secrète du musée d'Orsay qui, en fait, est l'entrée d'un hôtel de luxe.
Oui, tout à fait.
Il y avait 320 chambres ici.
Alors, ce n'est pas tout à fait un hôtel de luxe. C'est l'hôtel de la gare.
D'accord.
Et cet hôtel était appelé Palais d'Orsay, dans la continuité du terme qu'on employait pour désigner le bâtiment de la Cour des comptes dont nous parlions tout à l'heure. Donc, on a continué à parler de Palais d'Orsay jusqu'au début des années 70, quasiment.
La réception est sur notre droite, j'imagine. Toujours cette horloge, encore une fois, parce que nous sommes dans un lieu où le temps est compté.
Absolument, le temps est important. Un petit salon avec la cheminée pour attendre les rendez-vous. Et puis ensuite, on peut monter vers les chambres, vers la salle des fêtes, vers le restaurant.
Donc cet escalier, il desservait les chambres. Et puis quoi d'autre encore?
Les espaces de réception, le restaurant où avaient lieu des banquets, la salle des fêtes où avaient lieu des soirées, des bals, le fumoir où ces messieurs pouvaient prendre un verre en fumant un cigare. Et puis évidemment les chambres qui se déployaient tout le long de la rue de Lille, la longue façade de l'autre côté du musée.
Mais c'est gigantesque, c'est quoi maintenant?
La salle de restaurant est toujours une salle de restaurant. C'est le restaurant du musée où les visiteurs peuvent venir prendre le déjeuner. La salle des fêtes est ouverte à la visite. Elle a un temps abrité des sculptures, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Elle sert encore pour des soirées de temps en temps. Et puis le fumoir est un lieu de réception, de petites réunions.
Et les chambres maintenant accueillent des bureaux?
Pour l'essentiel, oui, ce sont nos bureaux. Elles ont été complètement transformées. Ce sont de petits espaces fonctionnels.
Mais dites-moi, vous avez privatisé le restaurant pour nous deux ou quoi?
Bien entendu, bienvenue.
Mais dites-moi, j'ai l'impression d'être à l'opéra.
C'est un petit peu ça. C'est un peu la même disposition que le foyer à l'opéra.
Exactement.
On donne sur l'esplanade devant le musée, devant l'ancienne gare, la sortie de l'ancienne gare, au-dessus de la marquise. Et puis il y a ce décor effectivement fastueux, ces boiseries, ces moulures, ces dorures, ces peintures au plafond, en dessus de porte. C'est un lieu effectivement prestigieux. On sait recevoir ici.
Mais vous savez recevoir et ceux qui viennent déjeuner côtoient aussi les œuvres ?
Oui, quelques-unes, quelques sculptures, en plus évidemment des œuvres qui sont insérées dans le décor, dans les boiseries, quelques sculptures qui sont là pour effectivement animer les lieux.
Donc ça, c'est la salle de restaurant dans laquelle venaient déjeuner ceux qui ensuite allaient prendre un train.
Probablement les personnes qui résidaient à l'hôtel aussi, le midi, le soir, des personnes extérieures qui pouvaient venir se restaurer ici, et puis des banquets à certaines occasions par des associations, des sociétés, je ne sais. Toutes les occasions étaient bonnes, comme dans un restaurant en ville en fait.
Et dites-moi, c'est quand même autrement plus chic que certaines brasseries de certaines gares contemporaines, non ?
Tout à fait, tout à fait. Il y avait aussi un buffet de la gare, cela dit, au rez-de-chaussée, près de l'entrée de l'hôtel.
Mais la salle des fêtes, elle est où ?
Elle est juste à côté, au même niveau. On peut y aller si vous voulez.
Et bienvenue emmener. A tout de suite pour la suite de Jour J, une émission exceptionnelle que l'on vous propose ce soir. Une véritable visite guidée du musée d'Orsay.
Jour J avec Flavie Flamand.
On déambule, on flâne, on se promène ce soir au cœur du musée d'Orsay pour une émission absolument exceptionnelle que l'on vous propose, ce lieu absolument magique qui fut un temps une gare, notre jour J de ce soir. C'est le 1er décembre 1986, l'inauguration du musée d'Orsay, un endroit que notre invité François Blanchetière connaît très bien puisqu'il est l'un des conservateurs de ce musée prestigieux. Alors, on vient quand même de visiter une partie, je dirais, de ce que l'on considère aujourd'hui comme les coulisses, mais qui fut un temps un hôtel, une salle de réception. Et maintenant, nous allons rentrer dans un endroit absolument magique, chargé d'histoire, je dirais, François.
Oui, un lieu somptueux, extrêmement orné, la salle des fêtes de l'ancien hôtel du musée d'Orsay.
Oh, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on faisait ici ?
On faisait des bals, on faisait des réceptions, on a fait des conférences de presse, des discours. Le lieu se prête à toutes les imaginations.
Mais alors, qu'est devenu ce lieu après l'arrêt du trafic ferroviaire à Orsay ?
Le trafic Grande Ligne s'arrête en 1939. L'hôtel continue à fonctionner jusqu'en 1973. Et la gare, qui présente des volumes énormes par rapport à son utilité réelle dans la deuxième moitié du XXe siècle, est utilisée à différentes choses. Par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les prisonniers qui reviennent d'Allemagne sont accueillis ici. C'est une zone où on les accueille, où on les soigne. On les renvoie vers chez eux. Plus tard, en 1954, l'abbé Pierre fait ici une conférence de presse pour remercier les donateurs, faire un bilan de tous les dons qui ont été faits à la suite de son fameux appel de 1954 au profit des sans-abri pour aider au cœur de l'hiver très rude de cette année-là. Et puis, en 1958, une conférence de presse importante, assez célèbre, pendant laquelle le général de Gaulle, ici même, annonce son retour aux affaires avant les élections présidentielles.
Donc un lieu, je le disais, chargé d'histoire, par lequel sont passés de grands hommes. À quoi sert-il aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est un lieu ouvert à la visite. Les visiteurs peuvent entrer, pas en permanence malheureusement, profiter de ce très très beau décor. Comme je vous l'ai dit, il y a eu longtemps des sculptures ici. Aujourd'hui, on n'en présente plus dans cette salle pour la libérer précisément pour des réceptions, des fêtes, ce qu'on appelle des locations d'espace.
Donc je peux venir faire la bringue ici ?
Vous pouvez, si vous y mettez le prix.
Ça coûte combien ?
Très franchement, je ne sais pas. Il y a des services dont c'est le travail, mais c'est une possibilité. Ce qu'on appelle des locations d'espace, c'est aujourd'hui un moyen de recette pour les musées assez incontournable.
On n'a pas encore parlé de l'emplacement d'Orsay dans Paris. Là, on peut véritablement en profiter. Devant nous, c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'on a presque l'impression qu'on pourrait la toucher, la Seine.
La Seine, avec les péniches, les bateaux-mouches qui passent, les voitures aussi, un petit peu trop. Et puis le jardin des Tuileries avec sa grande roue, le Sacré-Cœur et le Louvre, très important. C'est le musée, le grand frère si vous voulez. Une partie des collections du musée d'Orsay viennent du Louvre, elles ont traversé la Seine. La présence du Louvre explique aussi en partie l'architecture du musée, c'est-à-dire que cette gare, il fallait qu'elle soit à la hauteur, esthétiquement parlant, dans effectivement le cœur de Paris. On ne pouvait pas faire n'importe quoi et Victor Laloux a très habilement mêlé la fonctionnalité de la gare et le décor harmonisé, si vous voulez, avec ce prestigieux environnement.
Voilà, parce qu'il fallait évidemment que la gare d'Orsay puisse trouver sa place dans un décor absolument magique et qui est celui des quais de Seine. Le jardin de Rivoli qui est en face de nous, la place de la Concorde aussi qui est sur la gauche. Je dirais qu'on est presque dans le cœur de l'art parisien, non ?
Oui, largement, effectivement. À la fois beaucoup d'œuvres d'art, ce sont des lieux qui ont aussi beaucoup été sujets d'œuvres d'art, beaucoup d'artistes et de peintres ont représenté ces lieux, effectivement.
Dites-moi, François, il faut aussi préciser que entre la gare d'Orsay et le musée d'Orsay, il s'est passé quoi, une petite décennie, je dirais, de flottement.
Oui.
Encore une fois, ce lieu a été quoi, abandonné, réinvesti de façon parfois un petit peu hasardeuse.
Oui, étonnante en tout cas. Oui. Tout à fait. Le trafic banlieue continue, comme on l'a dit tout à l'heure, il est réduit. On envisage de détruire la gare, donc on va se débarrasser de toutes ces fonctions au cœur de Paris. Un projet, plusieurs projets même, de construction d'un grand hôtel très moderne. Aujourd'hui, on le regarderait autrement, mais Le Corbusier, entre autres, fait un projet au début des années 1970. Et puis, ces projets sont écartés pour préserver le bâtiment, le sauvegarder, le transformer. L'hôtel arrête son exploitation en 1973. Et puis, s'installe ici, par exemple, la compagnie Renaud Barreau, la fameuse compagnie théâtrale.
Donc, qui monte un chapiteau, en fait.
Qui monte un chapiteau, tout à fait, dans la nef, tout au fond. On a des photographies de ce chapiteau qui paraît tout petit sous l'immensité de la voûte. Ils vont rester là entre, si je me rappelle bien, 1974 et 1980 à peu près. Les commissaires-priseurs également de l'hôtel Drouot, pendant les travaux de l'hôtel Drouot, s'installent et font des ventes dans l'ancien hôtel ici même. Et puis évidemment, la nef sert de parking pour les services de la SNCF. On a des photos assez incroyables de voitures dans ce qui paraît être vraiment une halle à l'abandon.
Vous me montrez ça ?
Oui, bien sûr.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J.
Nous poursuivons notre visite guidée exceptionnelle au cœur du musée d'Orsay qui fut, on vous l'apprend peut-être ce soir, un temps une gare. Il n'y a pas si longtemps que ça en fait, en réalité. François Blanchetière, vous êtes donc notre guide en tant que conservateur du musée d'Orsay. Et là, on vient de s'élever, vous et moi, et c'est en montant justement au sein du musée que l'on peut prendre la mesure de ce que c'était. Et là, il ne fait aucun doute que nous sommes dans un hall de gare.
Oui, on a pris de la hauteur, effectivement, en montant en haut de l'une des deux tours qui ferment la perspective de la nef, tout au fond. Et on voit effectivement cette voûte gigantesque qui surplombe ce qui étaient les voies, dont on devine le tracé, là, avec cette grande allée de sculptures en contrebas.
Alors, l'horloge au fond,
oui,
qui indique le départ des trains et qui nous permet justement de ne pas les rater. Et puis, vous nous avez apporté des photos. Et là, tout à coup, j'ai l'impression vraiment que ce bâtiment magnifique dans lequel nous sommes a perdu, non pas de sa splendeur, mais a perdu de sa solidité. Voilà, vous me montrez la photo d'un édifice fragile. On est en quelle année, là ?
Alors là, on est au tout début du chantier. Une partie des structures métalliques ont été découvertes. On voit que tous ces caissons qui ornent la voûte et qui jouent un rôle d'isolation phonique en partie ont été retirés pour être restaurés. Certains ont été refaits. Ce qu'on mettait vraiment en valeur à la fin des années 1970, ce pourquoi la gare était vue comme méritant d'être conservée, c'est cette structure métallique. En réalité, là, elle est dépouillée. Mais sa solidité reste intacte.
Elle est désossée, en fait.
Elle est désossée, il reste les os, en tout cas. C'est presque l'inverse,
oui,
on a enlevé
oui,
la chair,
raison.
Il reste
absolument,
les os.
C'est tout à fait
sa solidité
ça.
Est intacte, on la restaure. Il y a encore du travail à faire sur cette structure qui mérite d'être entretenue. Mais voilà, on voit, mise à nu, la structure magnifique de la grande voûte, de la nef du musée, qui est l'ancien hall de la gare, effectivement.
Voilà, et on comprend effectivement à travers ces photos cet espace qui est face à nous et tout le travail qui a été apporté pour le transformer
voilà,
en musée.
Voilà, l'ampleur
Alors,
du chantier.
Qui s'est chargé de tous ces travaux ?
Il y a eu un concours d'architecture avec 6 projets. Et l'équipe lauréate est une équipe de jeunes architectes, ACT Architecture, sous la direction de Pierre Colboc, avec Renaud Bardon et Jean-Paul Philippon, de jeunes architectes assez audacieux qui ont proposé un projet qui n'avait pas froid aux yeux, on peut dire ça aujourd'hui. Leur projet a été pas mal, il a été retenu pour certaines qualités, notamment l'articulation entre les œuvres, l'aménagement intérieur et le respect de la nef de la gare. C'était le projet qui était de ce point de vue-là le plus respectueux, le plus intelligent. Et puis, leur a été adjoint une architecte spécialiste de l'architecture des musées, de l'aménagement intérieur, Gaë Olenti, à partir de 1980, à qui on doit en particulier le design, on peut dire ça comme ça, de ces salles qu'on appelle les mastabas.
Design qui n'a pas été totalement bien accepté quand même par certains à l'époque.
En tout cas, il y a eu débat, il y a eu un peu de polémique, effectivement. Le côté un peu postmoderne, certains ont dit brutaliste, de l'architecture intérieure de Gaio Alenti, avait de fervents supporters et puis aussi des détracteurs. Aujourd'hui, je pense que ce débat est en bonne partie caduque. L'aménagement intérieur d'Orsay est reconnu depuis longtemps comme une grande réussite.
Alors Gaio Alenti s'est donc chargé de cet aménagement qui est sous nos yeux. Qui a fait le choix aussi d'en faire un musée spécialisé dans le 19e siècle
hein? Alors l'idée a émergé dès le septennat de Georges Pompidou. Et puis c'est vraiment Valéry Giscard d'Estaing, pendant sa présidence de la République, qui l'a orienté. Lui voulait en faire un musée de la totalité du 19e siècle, en incluant la première moitié du siècle, et notamment le romantisme auquel il était attaché. Ça aurait été compliqué pour des raisons de place. Mmh. Les très grands formats, par exemple, qui sont au Louvre, pensez au radeau de la Méduse de Géricault, beaucoup d'autres, l'étoile de Delacroix, etc. Elles sont restées au Louvre et c'est très bien. Elles y sont parfaitement adaptées. Le musée d'Orsay n'aurait pas eu la place de présenter tout cela efficacement, dans de bonnes conditions. Et donc, on a restreint à la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est déjà très riche, autour des impressionnistes en particulier, qui sont dans la galerie des hauteurs, ici, au cinquième niveau. Et puis, la sculpture, les arts décoratifs, l'architecture, la photographie, le cinéma. D'emblée, il y avait l'idée de faire un musée pluridisciplinaire qui représente tous les domaines de la création artistique de cette période florissante de l'art français et de l'art international.
Ce musée a pris le parti aussi de mettre en avant des œuvres qu'on aurait pu ne pas forcément imaginer ici. En fait, toutes les œuvres ont leur place au musée d'Orsay.
Toutes les œuvres ont leur place, effectivement. C'est une des grandes réussites qui a été, elle aussi, contestée à l'époque. C'est-à-dire que certains des artistes, notamment contemporains de l'époque, estimaient qu'on n'avait pas à remettre à l'honneur les artistes officiels, pompiers, comme on disait. C'est un terme qu'on n'emploie plus vraiment aujourd'hui.
Oui.
Voilà, un terme très péjoratif. Estimant qu'ils avaient eu leur temps de gloire, que leur œuvre était périmée. Qu'il ne méritait pas d'être remis en avant et que les remettre à l'honneur se ferait au détriment des véritables artistes intéressants, les impressionnistes en particulier. Ouais. Et le succès d'Orsay, c'est d'avoir montré d'abord que les impressionnistes restent des artistes de tout premier plan, très méritants, même si de leur vivant, ils n'ont pas forcément eu le succès qu'on estime aujourd'hui qu'ils méritaient. Mais les artistes qui avaient le plus de succès à l'époque méritent aussi d'être revus. Il y a eu une espèce de réexamen appuyé sur toute une recherche en histoire de l'art qui permet aujourd'hui de présenter ici toute la diversité de la production artistique de l'époque.
C'est vrai qu'on peut monter encore plus haut avec vous?
En tout cas, on pourrait presque aller dans les superstructures, dans la double peau de la verrière, si vous voulez.
Ah, c'est vrai? Allez, on y va. Alors ça y est, on est à un point absolument culminant. Je ne savais même pas que ça existait, François. On est où?
Alors on est en fait entre les deux couches qui forment la couverture, si vous voulez, de la Grande Nef. Et pour tout vous dire, je découvre aussi, parce que depuis un an et demi que je suis au musée d'Orsay, je n'avais pas encore eu l'occasion, donc merci beaucoup Flavie.
C'est un honneur et un plaisir alors, partagez.
Ce qu'on appelle la double peau, on a au-dessus la couverture qui isole le bâtiment, et puis en dessous, tenue par toute cette structure métallique qu'on voit là devant nous, l'extrado en fait de la voûte, le revers si on peut dire, de la voûte qu'on voit quand on est à l'intérieur.
Donc pour ceux qui écoutent la radio et qui ne nous voient pas, nous sommes donc au musée d'Orsay. Quand vous vous promenez sous la nef du musée d'Orsay, nous sommes au-dessus de vous, mais pas dans le ciel. C'est-à-dire que nous sommes en fait entre deux structures métalliques. C'est le travail de Lalou?
Oui, ça c'est vraiment la conception d'origine. La structure a été restaurée. Elle doit d'ailleurs encore l'être parce que tout ça souffre évidemment. La gare a plus d'un siècle maintenant. C'est effectivement la conception de Lalou d'avoir cette distinction, cette double peau comme on dit. On est entre les deux couches de la double peau.
Alors il est un autre bâtiment extraordinaire qui date aussi de l'exposition universelle. C'est le Grand Palais. Est-ce que le Grand Palais bénéficie lui aussi d'une double peau?
Non, la conception est différente. Au Grand Palais, c'est effectivement la structure métallique constitutive de la voûte qui porte l'ensemble de la verrière. Ici, c'est un peu différent. Lalou a fait un choix de dissociation des deux. Il faut dire que le Grand Palais n'était pas destiné à rester.
C'est vrai.
À l'inverse de la gare d'Orsay. Le Grand Palais était un bâtiment conçu comme devant être éphémère. Et ça a posé de gros problèmes puisqu'il a fallu à grands frais restaurer à plusieurs occasions la verrière du Grand Palais.
À l'instar de la Tour Eiffel qui n'est pas si loin de nous. Merci beaucoup François. C'était un plaisir de partager ce moment avec avec vous, cette soirée avec vous. Vous avez été un guide formidable. Vous nous avez entraînés dans des endroits absolument magiques et je suis sûre que nos auditeurs en ont profité eux aussi. Je vais vous demander, François, vous pouvez m'indiquer où est le déjeuner sur l'herbe ?
Oui, je vous emmène, c'est par ici.
J'ai rendez-vous avec le président.
On y va.
Mais vous pensez qu'il va m'emmener déjeuner sur l'herbe, lui aussi ?
Vous verrez.
Mais où est-ce que vous m'emmenez, là ?
On monte.
Ah bah j'ai remarqué qu'on monte, mais on monte sur des structures métalliques. Non, faut pas avoir le vertige ici. J'ai l'impression qu'on est en train de passer au-dessus du toit.
Ouais, on passe entre l'extrado de la voûte.
Attention la tête. Ouais.
Et la couverture au-dessus.
Oh, mais attendez, mais c'est un endroit magique, là. Mais personne ne sait que ça existe.
En tout cas, peu de personnes y ont accès, ça c'est sûr.
Bon bah voilà, c'est dire si on est des privilégiés.
Jour J.
Alors ça y est, j'ai trouvé le déjeuner sur l'herbe. Enfin plutôt... les déjeuners sur l'herbe qui sont, je veux dire, des pique-niques absolument magnifiques. Bonsoir Christophe Leribaud.
Bonsoir.
Voilà, c'est François qui m'a dit, voilà, vous descendez, vous allez à droite, vous allez à gauche et vous tomberez sur le président. Voilà, donc merci beaucoup de m'accueillir dans ces conditions. Vous êtes président des Musées d'Orsay et de l'Orangerie. Bah, dites donc, vous devez vous éclater, vous, hein ?
Ah bah c'est un endroit magnifique, vous avez eu l'occasion de le parcourir.
Ouais. C'est un endroit absolument magnifique qu'on découvre dans des conditions assez exceptionnelles puisqu'il n'y a quasiment que nous et que j'ai l'impression que les œuvres se réveillent à notre passage. Vous voyez, ces journées où personne ne vient, on a l'impression que les œuvres des musées se reposent un petit peu. Vous devez en profiter. Vous arrive de venir quand le musée est fermé ?
Alors un musée fermé ne veut pas dire qu'on reste à s'endormir, il se passe plein de choses, beaucoup d'activités, beaucoup d'accrochages, de réinstallations d'œuvres, mais en même temps un musée avec des visiteurs, ça fait quand même très très plaisir aux personnes qui en sont chargées, de voir quand même le contact, de voir des générations nouvelles qui découvrent les œuvres, au contraire reviennent régulièrement leur faire signe. Je pense que les tableaux et les sculptures y sont sensibles également.
Parce qu'effectivement elles vivent sous le regard bien évidemment de ceux qui viennent les visiter. C'est un musée qui était construit à l'origine pour accueillir 1,5 million de visiteurs par an. Aujourd'hui, on est à plus de 3,5 millions.
Oui, c'est un vrai succès. C'était un pari, vous l'avez vu, hein, transformer une gare en un musée. L'idée était assez folle, l'idée était formidable par rapport à l'adéquation entre la période du traité et le bâtiment. Évidemment, c'était pas sans accroc architectural, un peu plus compliqué de montrer de la peinture dans une gare. La sculpture s'en est très bien tirée, puisque finalement elle est faite pour ce genre d'espace. Et dès l'époque, elle était présentée, par exemple, dans la nef du Grand Palais, autour de 1900. Mais finalement, les architectes ont trouvé des solutions. Mais il faut sans cesse évidemment s'adapter à ce succès des visiteurs. Mais finalement, il n'y a guère d'embouteillage. Peut-être au bout du circuit, autour des tableaux de Gauguin, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas sur tout le long. Donc c'est quand même déjà une victoire.
Et puis ce sont des espaces qui sont effectivement très agréables, avec beaucoup, beaucoup de luminosité. Là, on s'est retrouvé, je le disais, entre deux déjeuners sur l'herbe. Celui de Manet, qui a fait scandale au Salon des Refusés, donc qu'on appelle aussi le bain, et celui de Monet, dans un tout autre style. On est entouré vraiment d'œuvres et je conseille à nos auditeurs de venir les découvrir. Quand vous parlez aussi d'audace de programmation ou quand vous parlez d'oser des accrochages un petit peu particuliers, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est de mêler en fait la sculpture et la peinture ? De retrouver à la fois du pompon au niveau des sculptures et en même temps du Delacroix ?
Alors dans l'ADN du musée d'Orsay, il y avait vraiment effectivement le mélange des genres, le mélange des styles. Évidemment, mettre en valeur ces trésors impressionnistes, la plus belle collection au monde d'impressionnistes et de post-impressionnistes, mais aussi montrer les académiques. Et puis au-delà de ce mélange un peu binaire qu'on avait mis en valeur au début, creuser, montrer bien beaucoup d'autres tendances. Et puis ouvrir un petit peu les fenêtres, ne pas se concentrer uniquement sur les trésors de l'art français. Montrer davantage l'art européen, aussi bien les objets d'art viennois de la sécession que la peinture allemande, britannique, que les sculptures étrangères. Et maintenant, le nouveau défi, c'est de s'ouvrir encore davantage à un art plus mondialisé et savoir montrer non seulement la peinture américaine, mais les créations d'Amérique du Sud ou d'autres continents, sans oublier presque les arts premiers ou l'art japonais, qui ont chacun évidemment leur musée.
Oui, qui ont leur
dédié.
Place ailleurs, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, mais ce sont des œuvres qui ont été connus par nos artistes, entre guillemets, et donc il faut les faire rentrer dans ce jeu pour mieux comprendre cette période.
Voilà, qui ont été effectivement inspirés, et on pense notamment à Monet qui était inspiré par l'art japonais, hein, notamment. On est ici dans un musée, un jour de fermeture, j'ai vu des choses incroyables et j'ai vu des tableaux qui étaient décrochés. Est-ce que l'on peut expliquer à nos auditeurs le turnover de certaines œuvres ?
Alors le musée d'Orsay est extrêmement prêteur, ce qui est normal. Il a une collection gigantesque dont il ne peut montrer qu'une portion, sans compter toutes les œuvres fragiles. Hein. Il y a plus de 40 000 photographies ou 70 000 dessins qui ne peuvent pas être montrés de toute façon en permanence. Mais c'est un musée qui prête très généreusement aussi bien en région qu'à l'étranger. C'est aussi parce que c'est un musée qui organise beaucoup de très grandes expositions, très ambitieuses. On emprunte partout, donc normal que les musées qui nous empruntent reçoivent aussi tout autant de, si ce n'est plus, de tableaux de notre part. Donc les œuvres voyagent, cela permet vraiment des rapprochements inédits aussi lors de ces expositions. Et puis même, les œuvres peuvent voyager à l'intérieur même du musée. Le fait de les accrocher sur un mur ou dans une autre salle que là...
Elles se déplacent en fait dans le musée.
On les regarde différemment.
C'est vrai.
Elles sont en confrontation avec d'autres œuvres, pas le même éclairage, loin d'une fenêtre ou au contraire dans un espace très, très dégagé. Même si on n'était pas amené à sans cesse les déplacer pour des raisons des expositions, il faudrait même qu'on le fasse de toute façon. Même pour les œuvres qui, pour certaines, n'ont pas le droit de voyager. C'est le cas de ce déjeuner sur l'herbe de Manet, pour lequel il faut vraiment venir en pèlerinage au musée d'Orsay, puisque c'est une condition du legs du collectionneur Eugène Moroné-Latton qui l'avait offert pour qu'il ne bouge pas.
Voilà, qu'il reste là, à sa place, donc au sein du musée d'Orsay. Quels sont vos projets pour la saison à venir ?
Beaucoup de projets assez variés, aussi bien de l'architecture, une très grande exposition consacrée à l'architecte Gaudi, celui qui a métamorphosé le Barcelone de la fin du XIXe siècle. On connaît le grand chantier de la Sagrada Familia, etc. Mais l'exposition va nous permettre de creuser davantage, d'entrer dans le secret de son atelier, de son agence d'architecture, comprendre un peu ses méthodes de travail qui ont abouti à ces créations si originales, ces bâtiments étranges, très, très polychromes. Et puis, dans le domaine de la sculpture, une très belle monographie, une rétrospective du sculpteur Mayol. Alors au contraire, c'est un autre catalan, mais lui, beaucoup plus équilibré, classique. Mais là encore, découvrir comment Mayol était d'abord un peintre, puis un sculpteur, comment il a tenté de réinventer une certaine antiquité. Et puis aussi, une exposition du grand peintre américain Whistler, mais qui a beaucoup fréquenté la France et bien sûr l'Angleterre, avec des prêts exceptionnels d'un musée qui d'habitude ne prête jamais, qui est la Frick Collection de New York, mais ce musée est en travaux, et donc exceptionnellement pour la première fois en un siècle, toute une série de très beaux tableaux de ce portraitiste et paysagiste Whistler viendront en exclusivité, si je puis dire, au musée d'Orsay.
On espère en tout cas que tout ça aura effectivement bien lieu et on suivra ça de près. Christophe Leribaud, puisque c'était aussi notre jour J de ce soir, est-ce qu'il vous arrive encore de penser à la gare ou est-ce que pour vous, le musée d'Orsay est un musée à part entière et on en oublie son passé quand on s'en occupe ?
Alors, ce serait vraiment dommage d'oublier ce musée dans une gare. C'est tellement symbolique de l'énergie du 19e siècle, de la créativité, du rôle des ingénieurs, du rôle des transports qui ont fait vraiment se rencontrer les artistes, les collectionneurs, les ont fait voyager à travers le monde et qui a créé cette dynamique de création. Donc il est très important qu'on rende compte toujours que nous sommes dans une gare.
Merci beaucoup, en tout cas Christophe Leribaud, de m'avoir accordé ce petit déjeuner sur l'herbe. On aura été raisonnables, vous et moi. Mais merci en tout cas de nous avoir permis tout ça. Je rappelle donc que vous êtes président du musée d'Orsay et de l'Orangerie. Merci à vous.
Merci de nous accompagner pour ces 35 ans et j'espère vous retrouver tous au musée d'Orsay et de l'Orangerie pour fêter cela. RTL.